plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Nanana. Bonjour, comment allez-vous? C'est bien le type qui pose des questions à la radio. Et dites-moi, il est pas mal notre petit générique, mais alors la chanson c'est nanana. C'est pas qu'on n'a pas trouvé le temps de mettre des paroles, mais parfois c'est bien que ce soit ouvert. C'est Catherine Lagarde avec Jean Croc qui ont fait ce beau générique. Bon, Thierry Paret, vous avez 50 ans hier, vous n'en avez pas fait un événement
planétaire
national de
non,
votre anniversaire.
Trop, non, j'ai préféré passer ça un peu sous silence, ça n'a pas trop marché. Hein.
C'est beau parce que vous êtes au milieu du guet. Je dirais, je vois en vous un très beau centenaire en devenir, puis je vois l'ancien enfant.
En tout cas, on m'a quand même offert hier, ma fille en l'occurrence, un tour de Vélodrome à Saint-Quentin.
Oui.
Donc je pense au centenaire.
Alors ma fille en l'occurrence n'est pas le prénom de votre fille. Voilà, tout de suite un très bon jeu de mots dès le matin.
Un tour de Vélodrome, c'est-à-dire
comme tu peux faire un tour de Ferrari, un tour de truc, voilà, avec un vélo de piste, tu fais un tour de piste. Je suis un peu fan de vélo. Voilà.
Ne le relancez pas.
Bah oui, sinon on va pas, c'est sans fin.
C'est interminable, sur l'histoire de tour de vélo à Saint-Quentin. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Le journal de 7h02 avec Thierry.
L'annonce est officielle. Donald Trump a nommé son gendre Jared Kushner au conseiller à la Maison-Blanche. Cette décision devrait relancer le débat éthique sur ces conflits d'intérêts, alors qu'une loi américaine de 67 vise à lutter contre le népotisme présidentiel.
Mais pourquoi Saint-Quentin, le tour de vélo?
Il y a à Saint-Quentin, t'as un vélodrome qui est archi célèbre.
Est-ce qu'il est courbé?
Ce projet pourrait permettre à Recep Tayyip Erdogan de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Le Parlement turc a entamé l'examen d'une révision constitutionnelle renforçant les pouvoirs du président, dont les détracteurs dénoncent évidemment la dérive autoritaire. La tension ne retombe pas au Mexique, on en a déjà parlé. Hein. La décision de libéraliser le marché des carburants passe très mal auprès de la population. Bon, faut dire que cette décision, d'abord, elle a été votée par le Parlement en 2013, mais elle a eu pour effet, elle a provoqué une augmentation de 15 à 20% des carburants le 1er janvier dernier. Depuis cette date, les manifs et les rassemblements se multiplient, notamment à Mexico. Hier encore, des milliers de Mexicains ont défilé dans les rues de la capitale. Un hommage sobre a été rendu hier devant la supérette cachère de la Porte de Vincennes à Paris, où 4 personnes de confession juive ont été assassinées par le paramédic Koulibaly. C'était en janvier 2015. Face à la prise de conscience croissante de la condition animale dans la société, le groupe Carrefour s'engage à ne plus vendre d'œufs de poules élevées en cage d'ici 2020. La vague de froid qui touche l'Europe depuis la fin de la semaine dernière avec des températures polaires a fait une quarantaine de morts, pour la plupart en Pologne. L'administration Obama a dévoilé un plan visant à mieux protéger les ours polaires, une espèce en danger d'extinction dont la survie à long terme est menacée par le réchauffement climatique. Alors ce plan, il se concentre surtout sur les moyens de limiter la surchasse par les autochtones, la protection des zones que les ours utilisent pour leurs tanières, ou encore les menaces potentielles de marée noire. En revanche, aucune mesure dans ce plan, aucune action pour combattre le réchauffement planétaire. La fonte des glaces risque donc de se poursuivre et les ours polaires, qui dépendent de la banquise pour chasser leur proie et se nourrir, vont donc disparaître. L'Euro 2016 de football, qui a coûté officiellement moins de 200 millions d'euros d'argent public à la France, aurait rapporté 1,22 milliard au pays. En moyenne, les visiteurs euros auraient dépensé 154 euros par journée et seraient restés 8 jours en France. Et puisqu'on parle football, coup d'envoi des quarts de finale de la Coupe de la Ligue ce soir. Nantes reçoit Nancy et Sochaux reçoit Monaco. Demain, le PSG recevra Metz et Bordeaux recevra Guingamp.
Merci Thierry. Qu'est-ce qu'elle vous a offert votre fille déjà pour vos 50 ans hier?
Un tour de vélodrome à Saint-Quentin.
Peut-on faire du vélo à Saint-Quentin? Est-ce un projet d'avenir ou est-ce résolument rétrograde? François Rollin, bonjour. François Rollin,
bonjour.
Vous êtes un spécialiste des plus belles randonnées à vélo à travers la France.
Oui, et je suis également pour la sécession de Saint-Quentin.
On y reviendra. Atman Kelly, vous êtes promoteur immobilier, vous êtes aussi représentant de l'industrie automobile, lobbyiste. Vous trouvez que le vélo, c'est le passé.
C'est un coup de pédale
et Saint-Quentin
n'est
pas libre. C'est un coup de pédale.
En arrière pour moi.
François, Saint-Quentin, c'est une ville qui a son charme, qui a sa singularité. Peut-on impunément la traverser à vélo, même le jour de ses 50 ans?
Quel raccourci, mais quel scandaleux raccourci. Saint-Quentin, c'est une ville. Non, Saint-Quentin, c'est pas une ville. Saint-Quentin, c'est un nom. Saint-Quentin, c'est une idée de la vie. Saint-Quentin, c'est une façon d'être.
Oui, mais quel est l'intérêt pas sur vos
l'intérêt de faire trois tours de vélo,
voilà,
alors que
alors
la
qu'on
nature
peut faire l'automobile, bien
oui,
sûr.
Et puis
vous disiez, Ahmed, il y en a marre des vélos. Attendez,
il y a trois tours
c'est dommage
de vélo,
que ça
mais
y
en a
un petit peu marre de la pédale,
c'est
simplement.
C'est ça, c'est dommage que ça se passe comme ça. Je vous donne la parole, j'essaie de faire un débat élégant, j'essaie de faire un débat pondéré. Je donne la parole à des Françaises et des Français différents.
Vous me la donnez pas souvent, quand même.
Non, et bien c'est fini, merci.
La chanteuse malienne Oumou Sangaré sur Nova avec Yerefaga, c'est une nouveauté. Et puis à part ça, il est 7h11.
Mais oui, mais c'est pas anodin. Merci Armel M. Outre Armel, ce matin, nous avons autour de cette table la fine fleur de l'acuité, de la citoyenneté. Chère Marie Missé, qu'est-ce que vous avez retenu depuis ce matin? Qu'est-ce que vous avez ressenti dans cette journée?
Deux choses. J'ai appris que les étoiles de mer faisaient des œufs.
Les étoiles de mer font les œufs.
Non, c'est quand même étonnant.
Oui, Tito, c'est sérieux.
Je ne m'y attendais pas. Et deuxième chose, j'accuse le Figaro d'un article incroyable où il se plaint énormément qu'il y ait seulement un tiers de lauréats aux victoires de la musique classique. Un tiers de lauréats pour deux tiers de lauréates. Hyper féminisation de la musique classique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé quand même pour rigoler ce qu'il disait au moment d'Angoulême l'année dernière où il n'y avait pas une personne dans les nominés. Pas une femme, pardon. Et ben, il disait, accuser Angoulême de sexisme, c'est un faux procès, c'est un faux débat.
Oui, Marie, mais on est en France, il faut savoir se plaindre dans ce pays.
Et le violon, c'est fait.
Atmen, qu'est-ce que vous avez quoi, Atmen Kelly?
Rien.
Mais rien de bonne humeur. Moi, je préfère un mec qui n'a rien
voilà,
fait.
Qui l'assume,
mais qui est content, qui a bonne humeur, qui arrive bras, qui arrive besogneux avec ses dossiers, voilà. Ses machins. François, vous êtes dans quelle catégorie, François Roland,
ben, j'ai un petit peu le trac ce matin, puisque ce sera ma première fiche animaux. Hein, ma nouvelle rubrique, la bébête du mardi, commence ce matin.
À quelle heure on la mettrait?
Alors, ben, ça, c'est à vous de voir. Sachez que c'est très porteur, en tout cas. Les gens sont très, très demandeurs.
On va il y a très beau pull, je trouve.
On est sur un jacquard. On est
on sur un
d'Islande.
Une petite cotonnade.
C'est le pub cadeau de Noël.
Ça, oui, c'est un pull d'Islande. Il est donc de voilà. Saison.
D'accord.
Et souvent, d'ailleurs, j'ai un macareux sur l'épaule.
Hein?
Pardon,
un macareux. Un macareux.
Pas un macaron, c'est quoi?
Un macareux moine. Ah ben, un
puffin. Un oiseau. Un
buffin. Oui, le petit, c'est mignon, le symbole de l'Islande. Puffin. Puffin.
Non, ça, c'est la poule.
Non, ça, c'est la poule.
Le macareux.
Non, ça, c'est le pivert, ça.
Ah non,
le pivert, le kiki, c'est le pivert. Soyez précis sur les oiseaux, parce que t'as commencé.
Je ne connais pas précis.
Tito, notre correspondant Aquitaine, qui est beaucoup à Paris en ce moment pour un mec qui est censé habiter près du lac d'Ourthe. Il y a des racatacs ce matin ou pas? D'accord, et si on en voulait un autre, on n'a que celui-là?
Moi, je l'aime bien celui-là.
C'est toujours là.
Racatracatram,
pum, 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 tilititron.
Mais il a déjà servi celui-là. Moi, je l'ai déjà.
Il existe
entendu.
En sonnerie de portable voilà. Aussi.
Oui, il est, on peut l'avoir comme ça. Alors, avant de recevoir Thomas Baumgartner et Arnaud Muller, François Rollin, je voulais rappeler aux auditeurs que la chance qu'on a de vous avoir, puisque Charlène a recueilli quelques souvenirs parce que vous n'êtes pas né d'hier, François. Un petit hommage à François Rollin.
Toujours quelque chose à dire, quelque chose à dire.
Je dînais l'autre soir dans une grande brasserie parisienne. J'avais pris un plateau de fruits de mer avec un tourteau en hommage à Pierre Desproges. Ce que j'appelle, en mon fort intérieur, un plateau de hommage, avec un verre de Chablis, en hommage à Roland Tempor.
J'ai le très grand plaisir de vous présenter ce soir le professeur Rollin, qui vient de publier un très beau recueil de poésie intitulé « Vertige ».
Quand elle a eu rempli son panier à Prozion, oui, ça c'est son panier à provision, vous avez reconnu. Oui, mais ça me faisait un pied de trop. Quand elle a eu rempli son panier à Prozion, elle était ravivie. Oui, alors le vis, je l'ai remis ici, vous voyez. Oui, parce qu'il me manquait un pied, puis alors il y avait déjà un vis sur place, alors je me suis dit, en plus de vis, ça va certainement faire plaisir à tout le monde. Hein?
Non, bon. Alors, je profite de cette recherche pour répondre à la question que monsieur, c'est vous, oui, me posait tout à l'heure, concernant l'origine du mot pâté. C'est alors qu'arrive le Père Noël sur son traîneau. Le Père Noël s'approche du petit lapin et il meurt. Comme quoi, oui, on peut rire de tout, mais pas avec les fans de pâté. J'ai un petit peu envie d'ajouter, ni avec les fans de carottes, mais j'ai peur que la plaisanterie passe mal. Odi panem quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Merci, professeur Rollin.
Voilà, François.
Ah, merci beaucoup, avec un petit coucou à Alexandre Astier, puisque les derniers mots étaient ceux du roi Lot, donc ils sont écrits par le roi Arthur soi-même.
Très bien. Eh bien, à tout de suite avec Thomas Baumgartner et Arnaud Muller. Thomas Baumgartner et Arnaud Muller, vous avez débarqué avec du lourd ce matin, on va pas se mentir. Je vous ai dit banco, prenez la parole dans cette émission.
Vas-y,
soyons
Coco,
un petit peu, soyons pionniers un peu sur l'info. Vas-y Coco, fonce, vas-y, c'est ton destin, c'est ton risque, c'est ton danger, prends-le, racontez-nous cette histoire.
Oui, mais c'est Arnaud Muller qui est là, qui arrive avec du lourd.
Salut. Un combat bien de notre époque.
Voilà, il se trouve qu'aujourd'hui le ministre de l'économie, Michel Sapin, reçoit les salariés d'Ecoplat. Ecoplat, c'est une entreprise qui fabrique des plats en aluminium et qui est située à Saint-Vincent l'exploitation de Mercuse dans l'Isère. Exactement. Et là, ils sont à Paris parce qu'ils sont donc reçus par Michel Sapin pour un tour de table, une table ronde avec un éventuel nouvel actionnaire, c'est ça?
Un actionnaire italien, mais dont les salariés ne veulent pas. Et c'est vrai que c'est un combat qui dure depuis à peu près un an. Donc cette entreprise de 77 salariés, Edouard, fabrique des moules en aluminium, des moules, des barquettes, tu sais, qui servent à emballer les quiches ou les brownies au chocolat, des choses comme ça. Ce sont les derniers à faire ça en France. Et ils le faisaient bien. Ce qui est dingue, c'est que le carnet de commandes était plein, l'activité très rentable, jusqu'en mars dernier, où là, brutalement, l'entreprise fait faillite. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Les caisses sont vides, les actionnaires qui se sont succédés à la tête de cette entreprise ont ce qu'on appelle pompé la trésorerie. En gros, ils ont engrangé les bénéfices et au lieu de réinvestir l'argent dans l'outil industriel, ils sont partis à l'étranger avec l'argent pour d'autres projets ou pour juste leur gagner leur croûte. Voilà. Donc, figure-toi qu'il n'y avait plus d'argent même pour acheter de l'aluminium pour les barquettes. Donc, placé en liquidation judiciaire en juin, le tribunal de commerce a accordé Ecoplat à son concurrent italien. Il s'appelle Cookie. C'est souvent comme ça dans cette jungle. C'est souvent le concurrent qui fabrique lui-même des barquettes à qui, finalement, on donne l'affaire. Il le rachète pour rien du tout, pour mieux le tuer. Tu vois, c'est très cruel, très cruel. Et pourtant, avant la faillite, les salariés avaient alerté les autorités et notamment Emmanuel Macron. Il est alors ministre de l'économie, mais ça ne marche pas. En fait, Emmanuel Macron ne bouge pas. La seule réponse, c'est une lettre en fait, datée du 29 août. Et le lendemain, il démissionne du ministère de l'économie. Alors, quand il débarque à Paris en septembre, les salariés d'Ecoplat, en car Macron, pour alerter médias et hommes politiques autour de leur cas, ils vont frapper notamment à la porte d'Emmanuel Macron.
Donc, d'accord, ne compliquez pas avec les car Macron. C'est non, déjà, non, je m'accroche, voilà. Voyez gentil.
Accrochez-vous. À l'époque, il a un QG, il envisage d'être candidat à la présidentielle et il a un QG dans la tour Montparnasse. Et à leur côté, aux côtés des salariés, il y a François Ruffin.
Tu sais, Ruffin, voilà, le réalisateur de Merci Patron.
Exactement, c'est un peu devenu leur conseiller en communication. Ouais. Et il leur dit, si vous ne venez pas à Paris, les gars, ça ne va pas bouger votre affaire. Donc il leur dit, venez à Paris. Donc Macron accepte de les recevoir.
D'accord.
Et autour de la table, très vite, Macron va reconnaître ses erreurs. Il va nous dire qu'il n'a pas agi suffisamment tôt pour sauver l'entreprise. Et un drôle de petit marché se joue entre lui et François Ruffin. On a pu enregistrer cette rencontre donc, qui date de septembre dernier. Et on va assister à une curieuse mise en scène, acte 1. François Ruffin explique à Macron ce qu'il aimerait qu'il fasse maintenant, Emmanuel Macron.
Non, moi, je pense que si on réfléchit stratégie, je veux dire que vous soyez vivement interpellé et publiquement par les salariés d'Ecoplat, ça fera un épisode. Et ensuite que vous y répondiez en disant bah nous moi je suis prêt à aller me déplacer sur place et, bah ça fait un deuxième épisode.
Ok. Mmh. Ok. Et que surtout je viens.
Mmh. Oui.
Macron acquiesce et acte 2, au cours de cette même réunion, l'ancien ministre de l'économie propose trois choses aux salariés et à leur coach Ruffin. On est toujours dans cette même réunion. Écoute, c'est Macron qui parle maintenant.
Un, on échange sur le dossier. Deux, on vous tient au courant des avancées. Trois, vous m'interpellez publiquement.
Et je pense qu'on sort d'ici, on ne sort pas content.
Oui.
Donc tu vois, François Ruffin dit à Macron, on sort d'ici et on dit qu'on n'est pas content. Et effectivement...
Donc il prépare le point presse
le
après, en fait.
Voilà. Après, en fait.
Le happening, ils font semblant. D'accord, voilà. C'est mis en scène un peu.
Et donc les choses vont se passer comme prévu le soir, devant un bar. Emmanuel Macron tient un meeting avec des jeunes. Et le scénario qui a été écrit à huis clos au cours de cette réunion va se dérouler comme prévu. Les salariés interpellent Macron qui, devant les caméras, s'excuse. Écoute.
Vous le savez.
On se calme.
On est calme.
Non, je ne vais pas calme. Moi, je suis calme. Je vous dis.
Ça fait 7 mois qu'on se bat,
non, mais
monsieur
je
Macron.
Le sais.
Ça fait 7 mois qu'on fait.
Qu'il y a pas de réponse. Et donc, alors, ça ce qu'il s'est passé dans cette affaire, c'est qu'il n'y a pas eu de redressement judiciaire, ce qui nous aurait permis d'intervenir sur des projets qui étaient préparés, dont celui que vous portiez. Et que nous sommes passés directement en liquidation. Et donc, là-dessus, s'il y a eu une erreur de fait, c'est la mienne. Et ça n'a pas été celle des services. Et celle-là, je n'ai qu'à m'en excuser face à vous.
Alors, Arnaud et Thomas, qu'est-ce qu'on doit en tirer de ça? C'est qu'en fait, beaucoup de soi-disant clash à la télévision entre des ministres, des salariés, des syndicats sont un peu mis en scène à l'avance dans...
Bah, j'imagine c'est surtout que c'est un peu préparé en tout cas.
Ça, oui, c'est une mise en scène. C'est effectivement un petit côté société du spectacle. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est les excuses de Macron au-delà de cette mise en scène. C'est assez rare qu'un politique s'excuse et reconnaisse qu'il a commis une erreur. Après, c'est vrai que la rencontre Ruffin et Macron, elle nous a vachement surprise. Quoi. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? En tout cas, qu'est-ce qu'ils attendent, les salariés des Colplats qui sont reçus par Michel Sapin
aujourd'hui?
Aujourd'hui, ils espèrent reprendre leur boîte en SCOP, c'est-à-dire en société coopérative. Donc, on l'a vu, tous leurs recours en justice ont échoué. Depuis, ils bloquent l'usine pour empêcher justement le départ de leur machine chez l'Italien, chez le repreneur italien. Et il compte beaucoup, effectivement, sur la table ronde qui doit se tenir aujourd'hui. C'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour les politiques, sauver les emplois en France, c'est extrêmement compliqué à partir du moment où la justice a tranché. Donc, on va voir.
Arne Muller, qu'est-ce que vous nous préparez avec Karine Lelouette pour dimanche 13h dans QG de campagne?
Alors, dans QG de campagne, on va essayer de faire un débat de la primaire de gauche, mais avec élargi. C'est-à-dire qu'on va essayer de rencontrer on a invité les jeunes porte-parole des différents candidats et également les porte-parole des candidats Macron et Mélenchon.
Merci. Alors, Thomas.
J'ai, oui, j'ai une question François très importante à poser. Est-ce que Ruffin et Macron étaient au courant qu'il y avait un micro, puisque vous nous avez transmis du son?
J'ai envie de vous dire secret des sources.
Voilà, c'est ça.
Ben moi, je pense qu'ils n'étaient pas au courant et que vous avez fait la même chose. Vous mettez en scène, pareil, voilà. Tout ça, c'est machin, magouille et compagnie.
Voilà, après une histoire économique moderne, une histoire médiatique moderne, à tout de suite.
De 7h à 9h, j'écoute Plus près de toi.
Plus près de toi?
Il fait une chaleur dans cette émission.
Il y a un gros retour de la pub, j'ai l'impression. Hein, Armel, il y en avait moins à un moment?
Alors après Noël, en général, il y a un petit creux.
Parce que les gens beaucoup consommaient.
Ils n'ont plus envie d'acheter pendant 2-3 jours.
Eh oui, là, il y a une grosse envie d'acheter des bagnoles toute la matinée. Voilà. Ok, à tout de suite. Don't worry about... On est appelé en urgence par Jacques Souvent dans la rue. Pardon, auprès du disque, hein, je m'excuserai.
Oui. J'ai pris la rue du Degré qui fait 14 marches. Je suis tombé dans la rue Beauregard. Je cherchais un Beauregard. Je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé une bonne voie. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Vous allez au collège?
Oui, je suis au collège.
Vous m'avez dit que je suis dans les parages, là.
Ah ouais, je suis dans les parages.
Vous avez quoi comme petite musique dans la tête, là?
J'ai un son du Carif, Catmatique, HP. Automatique pour Toto 4, automatique pour Toto 4, papa. On connaît la taxi, on a les armes dans le trafic, on maîtrise tout le truc, on est 4 fois le stick, automatique pour Toto 4, automatique pour Toto 4,
Bon, ça suffit.
Ouais, on est bien maintenant,
On est bien, mais en fait, je comprends pas, il m'a abordé dans la rue, je suis un peu surpris, alors c'est pour ça en fait, quoi. C'est pas le but du jeu, en fait.
Le but du jeu, Edouard.
Je sais plus, là, je vois toute ma vie défiler, là, je sais plus trop, là, parce que monsieur allait au collège, on arrête un disque, et puis on embête monsieur, qui veut peut-être aller donner un cours ou en prendre un. Ensuite, vous lui demandez de chanter, vous l'interrompez, je trouve qu'il n'y a plus du tout le respect de la personne dans la rue, Jack. Excusez-nous, monsieur, hein.
Ouais, vous nous excusez?
Ouais.
Ben voilà, c'est le plus important, c'est ça. Cette fraternité recommencée. Et puis après, on peut tout à fait chanter sous sa douche, on peut peut-être chanter tout le temps à la radio. Merci infiniment, monsieur. On vous souhaite une très très bonne journée.
Ouais, merci à vous, monsieur.
Radio Nova.
Thierry Paret, il chante l'info, il fait des liaisons nulles.
Est-ce qu'on assiste à un retour des campements de rue à Paris? C'est un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, hier soir, des associations de soutien aux réfugiés ont organisé une opération coup de poing en dressant en très peu de temps, un petit quart d'heure, un campement dans le 18e arrondissement de Paris, à la Halle Pajol, car les places manquent le centre humanitaire ouvert par la mairie de Paris. Voilà qui ne va pas aider les détracteurs du président turc à se détendre. Le Parlement du pays a commencé l'examen d'une révision constitutionnelle afin de renforcer les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan. Cette révision pourrait permettre au président turc de rester au pouvoir jusqu'en 2029. Cet officiel, Jared Kushner, a été nommé haut conseiller à la Maison Blanche. Alors Jared Kushner, il est le gendre de Donald Trump. C'est une décision qui devrait relancer le débat éthique sur les conflits d'intérêts, alors qu'une loi américaine de 67 vise à lutter contre le népotisme présidentiel. Un sobre hommage a été rendu hier devant la supérette cachère de la Porte de Vincennes à Paris, où 4 personnes de confession juive ont été assassinés par Hamedi Coulibaly en janvier 2015. Face à la prise de conscience croissante de la condition animale dans la société, le groupe Carrefour s'engage à ne plus vendre d'œufs de poules élevées en cage d'ici 2020. 600, c'est le nombre de navires qui ont emprunté le canal de Panama élargi depuis son ouverture fin juin. Ça peut paraître beaucoup, en fait, pas du tout. Même c'est très faible. Reste à savoir pourquoi le canal élargi n'est pas plus emprunté. Eh bien, c'est simple, hein, c'est parce que le passage coûte cher aux bateaux et que les bateaux dont la taille leur permet d'emprunter encore les anciennes écluses ne se gênent pas pour le faire. Résultat, 4 ou 5 navires empruntent le canal élargi chaque jour, quand une trentaine d'autres empruntent les anciennes écluses. La vague de froid qui touche l'Europe depuis la fin de la semaine dernière avec des températures polaires a fait une quarantaine de morts, pour la plupart en Pologne. Le Costa Rica, pays d'Amérique du Sud, a réussi l'exploit l'an dernier de fonctionner à 98% d'électricité issue des énergies renouvelables, c'est-à-dire sans utiliser d'énergie fossile, une prouesse pour ce pays petit. En France, 14% de l'énergie consommée vient des ressources vertes. Pour réussir cet exploit, le Costa Rica a misé sur des installations hydrauliques alimentées par de nombreuses rivières présentes dans le pays, et puis une intense saison des pluies, mais aussi grâce à la géothermie, aux éoliennes et au solaire.
Non mais vous simplifiez là, c'est pas si simple que ça, c'est dommage.
Oui, c'est moins précis
qu'avant. C'est pas ça. Ouais. Je comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, je dis pas que c'est vulgaire si vous voulez, mais c'est, tout ça est un peu, hein,
oui,
mais c'est pas assez.
C'est gras, c'est engoncé, donné comme ça,
c'est corseté quoi. Hein,
et puis il y a de la jalousie quoi, il y a un petit parfum de jalousie là-dedans.
Il y a un côté d'appel anonyme un peu.
Ils ont des rivières.
Voilà, gnagnagnagnagna.
Il y a un petit côté vélodrome.
C'est dommage, il y a un petit côté, je sais pas, c'est pas contre vous bien entendu. Thierry, c'est pas parce que ma cousine voulait présenter les infos qu'elle a pas été prise. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a... Il y en a d'autres.
Ouais, la FIFA qui va décider aujourd'hui du nombre d'équipes qui participeront au Mondial à compter de 2026. Il s'agit de passer à 40 voire 48 équipes. Il y en a 32 aujourd'hui seulement.
Ouais, mais c'est typique ça. Ça c'est typique.
L'Euro 2016, il a rapporté combien à la France? Il a rapporté 1,22 milliard donc au pays, alors qu'il a coûté officiellement moins de 200 millions d'euros d'argent public à la France. On peut pas être plus précis.
Oui,
là,
mais très précis. Oui, mais bizarrement là,
à
c'est
virgule près.
Au moment où je ne voulais pas le savoir. Moi, je ne voulais pas. Et François, je vous trouvais queuré par ce chiffre. 1,22 milliard, c'est trop, ça m'écœure. Moi, il est 7h30.
C'est 23% de moins que la moitié du budget du Costa Rica.
Déjà, ouais, en plus, il y a aussi ça, vous avez raison.
J'aurais pu le dire.
C'est bon, Thierry, ou pas?
Oui, Nantes contre Nancy ce soir et Sochaux contre Monaco, ouais, sont les quarts de finale.
Mais c'est du sport, ça, c'est pas une vraie guerre.
Coupe de la Ligue.
Il n'y a pas de guerre régionale dans ce pays. Très bien.
Peut-être dans les tribunes.
Alors, Tito, la météo ou l'horoscope aujourd'hui?
L'horoscope. Le bélier, tu pars d'un bon pied. Le taureau arrête le bordeaux. Le gémeau ne fait pas ton chabot. Cancer, tu peux reprendre du dessert. Lion, méfie-toi du scorpion. Vierge, allume-toi une cierge. Balance ta mal à ta phrase. Scorpion, mon ami, méfie-toi du lion. Sagittaire, il vaudrait mieux te taire. Capricorne, tu dépasses les bornes. Le verso, tu te la joues perso. Et poisson, mon ami, la dialyse a du bon. Tardia, ria, pita, ria, ria, pita, ria, ria, pita. Tardia, ria, pita, ria, ria, pita, ria, ria, pita.
C'est scientifique, c'est vérifié par des...
Oui, c'est Atman qui...
Oui, oh bah tiens, bon. À tout de suite, merci. Oui.
7h, 9h, plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en ce moment.
J'ai décalé, j'ai pris la décision de décaler le disque de Bonga à tout à l'heure parce que nous sommes avec Sylvain Kahn, qui est professeur historien, professeur aussi à Sciences Po, donc il a une grosse journée. Et comme je voulais qu'on parle d'Europe avec Thomas Baumgartner, peut-on parler d'Europe sans faire des sauts de cabri? Cher Sylvain Kahn, d'abord vous avez une très belle peau. Je tiens
Merci.
À vous le dire, parce que très
Merci
souvent, les professeurs, on croit que c'est juste un esprit, comme c'est une élocution, une pensée. Bien non, il y a aussi un physique. Est-ce que c'est, vos élèves, ils sont très sensibles.
Oui. D'ailleurs, ça maintient en forme, parce qu'ils aiment mieux les profs, effectivement.
Est-ce que ça vous gêne? Parce que, alors, vous êtes professeur à Sciences Po, donc ce sont des élèves majeurs. Vous avez le droit d'être amoureux.
Absolument.
Que des élèves tombent amoureux ou amoureuses de vous. Est-ce que c'est quelque
chose? C'est pas interdit par la loi.
Non.
C'est vrai.
Ça vous avez été embarrassé parfois dans votre vie de professeur?
Non.
Ou pas, par
non,
ça
non, non, non. C'est pas du tout embarrassant.
Continuez les élèves de Sciences Po.
Ça fait partie de la joie du métier, je peux vous le dire.
Thomas Baumgartner.
Oui, Edouard, soyons prospectifs. On continue de faire des projections dans l'année 2017. On a fait un peu ça.
C'est vrai, on est en avance.
On est en avance.
Ah ben non, on est déjà en 2017.
On est, mais par contre, le 25 mars 2017, ce sera les 60 ans du traité de Rome. Voilà, le traité de fondateur de la CE. À l'époque, Sylvain Kahn, vous êtes géographe aussi.
Ça nous rajeunit pas. Attention à ce que vous allez dire, Thomas.
60 ans, oui, ouais. 60 ans. Mais ça nous rajeunit pas, mais les enjeux restent forts. Vous avez signé un texte il n'y a pas très longtemps sur lemonde.fr où justement, vous dites qu'il y a deux projets européens en concurrence en ce moment au sein même de l'Union européenne. Et il y a le projet officiel, en quelque sorte, une sorte de contre-projet, on peut dire ça?
Oui, alors, mais dites pas que c'est le projet officiel. Parce
attendez,
que,
attendez,
coup,
ne commencez pas déjà à me perdre dans cette conversation. Alors, allons-y. Oui, donc il y a deux projets...
Reprenons pas à pas.
Oui, pas voilà. À pas.
Ok, pas à pas. Donc, bon, alors, il y a, selon moi, bien sûr, il y a un projet, on va dire, qui est le projet tel qu'il existe dans son esprit depuis les années 50, qui fait qu'on ne s'en rend pas toujours très bien compte. Ce que nous vivons actuellement en Europe, malgré toutes les difficultés, et que je ne mésestime pas du tout, mais on n'est pas là pour parler de ces difficultés-là, on peut en parler bien sûr plus tard, c'est que les Européens, depuis 50 ans, nous, collectivement, on fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'est-à-dire que nous avons jeté par-dessus bord le bébé du nationalisme. Et on a décidé de dire bah, maintenant, les territoires nationaux, les souverainetés nationales, les sentiments nationaux, on peut les faire cohabiter tous ensemble sans dire « je suis mieux que toi, mon voisin » et sans s'autoriser à te taper dessus et à considérer que je dois t'inférioriser.
C'est le projet de paix de l'Europe.
Voilà.
Alors, ça, c'est le projet qui devait avancer comme ça, comme un train dans la nuit, que rien ne devait interrompre. Et puis tout à coup, oui, d'autres...
Comme dans Miyazaki. Hein. Et ça avance pas mal, d'ailleurs. Je veux dire, le fait est que, oui, ça fait un peu bête aujourd'hui de dire ça fait 70 ans qu'il n'y a plus de guerre entre les pays européens. Ben, ça arrivait très, très rarement dans l'histoire des Européens. Bon, la prospérité, elle est là aussi, même si depuis 2008, il y a beaucoup d'inégalités territoriales, sociales, économiques. Bon.
Voilà. Mais, et en même temps, chaque fois qu'on demande aux Européens, aux gens dans les pays, que pensez-vous de l'Europe, bizarrement, à chaque fois, les gens ont une vision plus négative. On a l'impression
ils ont une vision plus négative parce que ça leur paraît loin, parce que ça leur paraît bureaucratique, parce que ça leur paraît technocratique, parce qu'ils ne voient pas très bien à quoi servent les élections européennes, où pourtant ils élisent au suffrage universel direct leurs députés. Et puis surtout parce qu'ils se disent il y a plein de problèmes. Et la construction européenne n'est-elle pas en train de devenir davantage un problème que la solution ? À mon avis, c'est ça le gros truc, quoi. Hein. C'est-à-dire, on se dit, y a un problème avec les migrants, on devrait arriver à être plus fort pour accueillir les migrants et protéger nos frontières à 28 que seuls. Et certains pensent que ça serait peut-être mieux si finalement on était à nouveau seuls. Bon, on verra bien si un jour les pays deviennent à nouveau seuls. Ce qu'il y a de bien avec le Brexit, c'est qu'on va avoir une espèce de laboratoire vivant. On va voir ce qui va arriver aux Britanniques. Donc moi, je dis à tout le monde, aux Français qui nous écoutent, à tous les habitants de France qui ne sont pas Français qui nous écoutent, aux Allemands qui écoutent Radio Nova, aux Estoniens qui écoutent Radio Nova et qui sont très nombreux, comme chacun sait.
C'est vrai.
Attendons de voir ce qui va se passer avec les Britanniques. Et dans 5 ans, si jamais les Britanniques sont très, très heureux, on pourra toujours se poser la question du Frexit.
Voilà. Mais alors, sans attendre ces 5 ans, il y a une figure que vous désignez comme étant en quelque sorte symboliquement à la tête de ce mécontentement, de ce sentiment anti-européen. C'est le Premier ministre hongrois qui est à la tête de la Hongrie depuis un certain temps. C'est Viktor Orban. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente ? Vous le représentez comme une sorte de Dark Vador.
C'est ça, oui.
La force obscure.
Le côté obscur de la force européenne. Bah, ce qu'il représente, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et le problème, c'est qu'il n'est pas seul. Il est en train d'entraîner dans son sillage le gouvernement polonais, le gouvernement tchèque, le gouvernement slovaque. C'est quelque chose qui serait finalement, on va détourner ce projet européen qui est fondé sur l'état de droit, la démocratie, la paix, les lumières, enfin bon, tout un tas de trucs qui sont dans l'héritage culturel européen. On va essayer de le détourner. L'union fait la force, oui, mais l'union doit faire la force justement des nationalistes, des xénophobes, des gens qu'on peut appeler les fans de la démocratie illibérale, c'est-à-dire une démocratie où on continue à voter, mais où il n'y a plus de contre-pouvoir, où on censure la presse, où il n'y a plus que des oligopoles. Par exemple, Radio Nova, en Hongrie, très probablement n'existerait plus, ou si elle existait, elle aurait été mise entre les mains d'un oligarque très proche du pouvoir et très riche.
C'est le cas.
C'est vous qui le dites, Edouard, c'est pas moi. Hein. Bon, voilà. Et donc, à telle enseigne qu'aujourd'hui, le gouvernement polonais élu fin 2015, qui est d'une droite conservatrice, voire réactionnaire, celle des frères Kaczynski, le parti Ordre et Justice, essaye de désinguer l'équivalent de ce qui est chez nous, le Conseil constitutionnel. Alors, il existe toujours, hein, mais on change les règles, on change les hommes, on met des gens à sa solde et on fait en sorte que les arrêts rendus par ce tribunal ne puissent plus faire force de loi et s'enlise dans les sables de la bureaucratie. C'est juste un exemple. Hein. Je vous ai pris un exemple en Hongrie avec l'oligopole sur les médias. Je vous prends un exemple en Pologne.
Donc, mais ce que vous dites, Sylvain Kahn, c'est que ces actualités-là, dans ces pays-là, au niveau des pays, on les constate. On les constate tristement, on les constate. Vous voyez un mouvement global, en fait, de cette démocratie libérale.
Oui,
c'est une sorte de contre-projet européen.
C'est ça. Parce que contrairement à ce à quoi on pouvait s'attendre, ou contrairement à ce qu'il y a eu dans des années, disons dans les années 90 ou même dans les années 2000, quand il y a toujours eu des eurosceptiques, il y a toujours eu des souverainistes, il y a toujours eu des forces obscures, comme vous dites, mais qui ne sont pas forcément obscures. Après tout, on a le droit d'être contre l'Europe, ce n'est pas le problème.
Merci. Hein.
Voilà. Mais là, ce qu'il faut bien voir, c'est que des gens qui étaient plutôt du côté des opposants à la construction européenne, disent finalement, la construction européenne, on la prend, ne serait-ce que parce qu'on a besoin de l'Europe pour se défendre face aux méchants musulmans qui veulent rentrer. Et d'ailleurs, on met des barbelés autour de nos frontières. On sera plus fort en mettant des barbelés à 27 qu'en le faisant chacun dans notre coin. Mais dans notre projet, il y a aussi qu'on va devenir post-démocratique et qu'on va finalement vider de son sens la démocratie, non seulement européenne, mais également nationale. Mais on va le faire à 27. On ne va pas sortir de l'Union européenne parce que, sur le plan économique, par exemple, on a bien conscience qu'on est plus fort à 27. Donc, il y a bien deux projets, de remplissage, si j'ose dire, d'utilisation de la construction européenne. Celui qui est effectivement un peu en difficulté, qui est plutôt héritier des Lumières, et celui qui ravive la tradition des anti-lumières qu'on pensait éteinte depuis 1945.
Voilà, donc Sylvain Cagne, une grille de lecture que vous nous offrez aussi pour analyser les différentes élections qui ont lieu en Europe cette année, en particulier aux Pays-Bas et en Allemagne.
Oui. Merci Sylvain Cagne, je suis obligé de, parce qu'on ne peut pas faire attendre les enfants, il y a un enfant qui va venir dire un poème. Juste avant de nous quitter, donnez-nous une raison d'être optimiste pour notre avenir d'Européens.
La radio.
Ah oui.
Bah oui. Grâce à l'Europe démocratique, on peut écouter la radio et beaucoup de radio, et je veux dire la radio qu'on veut, tous les matins, tous les soirs, toute la nuit, tous les jours. Et c'est quand même un des plus grands plaisirs de la vie.
Merci. Et si vous voulez connaître les secrets beautés de Sylvain Cagne, appelez Radio Nova. Merci beaucoup. Léon, c'est toi qui l'as choisi, ton texte de Raymond Devos ?
Oui.
Et tu l'avais, comment tu connaissais Raymond Devos ?
Je l'avais fait en poésie à l'école et je trouvais ça marrant.
Ah oui, la prof, elle vous fait apprendre du Raymond Devos.
Oui.
Bon, bah alors on écoute.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
On va. Mesdames et messieurs, je vous signale tout de suite que je vais parler pour ne rien dire. Oh, je sais. Vous vous dites, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux ? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi, quand j'ai quelque chose à dire, je veux qu'on le sache, je veux en faire profiter les autres. Et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien, on en parle, on en discute. Mais, me direz-vous, si on parle pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler ? Eh bien, de rien, de rien. Car rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Exemple. Rien, moyen est également que rien. Si on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut déjà quelque chose. On peut acheter quelque chose avec rien, en multipliant. Une fois rien, c'est rien. Deux fois rien, c'est pas beaucoup. Mais trois fois rien, pour trois fois rien, on peut déjà acheter quelque chose. Et pour pas cher. Maintenant, si vous multipliez trois fois rien par trois fois rien. Rien multiplié par rien égale rien. Trois multiplié par trois égale neuf. Cela vous fait rien de neuf. Oui, ce n'est pas la peine d'en parler.
Oh, bravo, bravo, bravo Léon.
Merci.
Toi, tu penses que tu as quelque chose à dire, toi, ou rien ?
Rien.
C'est vrai ? Mais tu aimerais le dire ou pas ?
Oui.
Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, on ne nous donne jamais la parole, et c'est un peu à nous de parler. » Et puis on leur donne la parole, ils disent « Oui, ben, c'est bien que ça soit nous, parce que c'est jamais nous qui parlons. » On dit « Ben, alors parlez. » Ils disent « Bah oui, parce que c'est jamais les autres, enfin c'est à nous. » Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je voudrais dire que ça serait bien que ça soit un peu nous qu'on écoute. Eh ben, on vous écoute, parlez. Ben voilà. Eh ben, je parle pour dire que c'est toujours les mêmes qui ont la parole. Eh ben, vous l'avez maintenant. Ben, justement, ça change un petit peu.
En entrant dans ce studio, Léon se disait « Quand je serai grand, je voudrais être Édouard Baird. » Et là, il vient de changer d'avis.
Exactement. Il était incroyable. On aurait dit Jean-Pierre Léo dans Les Codes sans cou. Il parlait comme ça.
Pardon.
Oui, c'est bah, oui bah, vous en avez pris.
Léon, tu vas aller à l'école maintenant ou pas ?
Oui.
Tu es en quelle classe ?
CM2.
Très bien. Bah, c'était formidable.
Au revoir.
Merci, mon vieux. Merci, François Rollin.
7h, 9h, plus près de toi.
On va ?
Plus près de toi.
7h, 9h,
Édouard Baird, 7h, 9h, à mon avis, il ne fait pas ça pour rien.
Non, en effet. Atmen Kelive, depuis que vous avez regardé les Golden Globes avant-hier soir, vous êtes dans le cinéma. Là,
oui,
aujourd'hui,
à fond.
Vous me parlez de musique, de film, oui. Vous êtes venu avec un instrument bizarre.
Oui, parce qu'il a La Land qui a gagné le Golden Globe.
La Land,
le film qui a l'air incroyable.
Un musical.
Espèce de, comme j'ai dit, de demoiselle de Rochefort à l'américaine.
Vous avez dit, comme j'ai dit, donc vous vous citez vous-même. Même oui, Alain Delon ne le fait plus.
Ah bon, d'accord, pardon. Eh bien, La Land a gagné le prix. Et moi, je veux revenir sur la musique de film, essentielle quand même pour le. Ça habille quand même un film. Et on n'utilise pas beaucoup de compositeurs français, alors je suis là pour reprendre, parce que j'ai vraiment dans mon tiroir beaucoup, beaucoup de musique de films, donc je peux accompagner tous les films comme ça directement, comme les pianistes faisaient ça du temps des Nickelodeon à l'époque où il y avait Chaplin. Et donc je peux vous donner un petit florilège, par exemple sur les Ch'tis, j'aurais pu faire... Bienvenue chez les Ch'tis, bienvenue. Votre film s'appelle comment par exemple?
Ouvert la nuit.
Ouvert la nuit. C'est pas mal, non? Vous êtes oui.
C'est bien. Oui, je pensais pas vivre ça ce matin.
Mais si, ouvert la nuit. Non, vous voyez, c'est-à-dire une musique de proximité, une musique où le spectateur peut rentrer.
Donc vous accompagnez le film avec
le film directement. Et à la bouche, je fais tous les bruits.
Pour le film, quel est l'apport pour mon émission?
Je sais pas.
François, vous avez regardé. Vous avez regardé Atmen, il y avait de la tendresse. Il y avait dans votre œil le côté, c'est pas bien ce que tu fais. Mais au fond, il y a un mec bien.
Oui, oui, il faut qu'il essaye de le refaire, mais un autre jour.
Peut-être pas à la radio, ou alors que beaucoup de gens veulent absolument.
Peut-être à la maison, en toute simplicité.
Oui, en toute simplicité. Oui, le jour où votre femme n'est pas là. Alors, François, la bébête du mardi, c'est un nouveau thème.
Oui, c'est une nouvelle rubrique, c'est l'affiche animaux, la bébête du mardi. Et donc aujourd'hui, Edouard, le tapir.
Oui.
Le tapir est un mammifère ongulé dont une espèce est originaire d'Asie. 4 d'Amérique et 0 d'Europe.
Ah oui.
Ça, c'est très important. Son corps massif est recouvert d'une peau très épaisse, pouvant aller jusqu'à 12 mètres. Ou 12 millimètres, mais ça, j'ai pas bien pu avoir l'info.
L'important, c'est
12. C'est l'un des deux, c'est 12. Le tapir a une courte trompe qui lui sert à attraper sa nourriture. Son poids varie de 150 à 300 kilos. Là-dessus, vous me suivez toujours.
Oui.
Il possède une ouïe et un odorat excellent, mais une vue peu développée. Dans la nature, un tapir vit approximativement 30 ans. En captivité, approximativement une demi-heure. Le drame du tapir, et là on rentre dans le vif du sujet, Edouard, c'est que souvent le R de la fin est mal écrit, on dirait un S, et on croit avoir affaire à un tapis, donc on marche dessus. Beaucoup de tapirs, Edouard, meurent piétinés par des gens qui ont mal lu. Et pour terminer, l'indiscret de Nova, aucune vedette du cinéma français ne possède un élevage de tapirs.
Merci François Rollin. Tout de suite, mise en musique par Ahmed Kiss.
Petite musique, mon tapir, le tapir, tant pire pour toi.
Seigneur, tapir, faites qu'il y ait tout de suite le journal de Thierry Paré.
Tapir. Radio Nova.
Les places manquent au centre humanitaire pour migrants ouvert par la mairie de Paris. Résultat, des associations de soutien aux réfugiés ont organisé une opération coup de poing hier soir en dressant en 10 minutes un campement dans le 18e arrondissement de Paris à la halle Pajol. Le Parlement turc a commencé l'examen d'une révision constitutionnelle afin de renforcer les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan. Cette révision pourrait permettre au président du pays de rester au pouvoir jusqu'en 2029. C'est officiel, Jared Kushner a été nommé haut conseiller à la Maison Blanche. Alors Jared Kushner, c'est le gendre, tout simplement, de Donald Trump. Cette décision devrait relancer évidemment le débat éthique sur les conflits d'intérêts. Un sobre hommage a été rendu hier devant la supérette cachère de la Porte de Vincennes à Paris où 4 personnes de confession juive ont été assassinées par Amédi Coulibaly. C'était en janvier 2015. Face à la prise de conscience croissante de la condition animale dans la société, le groupe Carrefour s'engage à ne plus vendre 2 de poules élevées en cage d'ici 2020. Lors de son émission hebdomadaire dimanche dernier, le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé une hausse du salaire minimum de 50%. Même chose pour les retraites des fonctionnaires, des professeurs, des policiers, militaires, docteurs, pour contrer une inflation vertigineuse. Il faut dire que le pays est rongé par une crise économique sans précédent, une crise politique aussi. Et il faut aussi préciser que la hausse moyenne des prix a été l'an dernier de plus 475%, si l'on en croit le Fonds monétaire international. La vague de froid qui touche l'Europe depuis la fin de la semaine dernière, avec des températures polaires, a fait une quarantaine de morts pour la plupart en Pologne. Au Sri Lanka, état insulaire du sous-continent indien situé au sud-est de l'Inde, on souffre plutôt de la chaleur. Et le président du pays, dont je tairai le nom parce que tout simplement vous ne parlez pas sri lankais, ça n'aurait pas trop grand intérêt, vient d'annuler un décret vieux de 26 ans qui contraignait...
Si on refuse l'information...
J'ai donné le bâton là quand même.
Non mais c'est vrai,
on en reparlera, mais c'est grave.
C'est grave, c'est très grave.
Le président du Sri Lanka vient donc d'annuler un décret vieux de 26 ans qui contraignait les hauts fonctionnaires à porter le costume cravate. Il affirme qu'ils peuvent désormais adopter une tenue plus confortable. Il s'agit de s'adapter au climat du pays, particulièrement chaud. On le sait, Pékin souffre d'épisodes de pollution en série particulièrement importants. Pour faire respecter les normes anti-pollution édictées par le gouvernement, les autorités de la ville ont décidé de lancer une police de l'environnement, une police verte. Oui, parce que beaucoup d'entreprises et de conducteurs bravent les interdits. Alors cette police verte, elle va traquer ceux qui roulent alors qu'ils n'ont pas le droit de rouler. brûlés, oui. Mais pas que. Ils vont aussi condamner les barbecues en plein air, c'est plus surprenant, hein, ou encore les incinérations de déchets, de bois ou d'autres matériaux organiques qui sont apparemment monnaie courante à Pékin. Les amendes pour le non-paiement des parkmètres à Paris vont être doublées ou triplées selon les quartiers à partir du 1er janvier 2018. Les contrôles seront par ailleurs renforcés. C'est ce qu'a annoncé la mairie qui justifie cette mesure au regard de la fraude massive dans la capitale. La FIFA va décider aujourd'hui du nombre d'équipes qui participeront au mondial de foot à compter de 2026. Il s'agit de passer de 40... De 32 à 40,
dites-moi,
voire 40.
Vous avez fêté votre anniversaire hier, oui. Thierry Paret.
Oui, ça s'entend cela.
Tout petit peu.
Wow, c'est léger, non?
Mais c'est un compliment.
Mais c'est les tours de vélo, ça, c'est à force de faire des tours de vélo.
Vous faites allusion à quelque chose qui était il y a une heure. Ce ne sont pas les mêmes auditeurs.
Oui, alors j'en reparle. Il a eu comme cadeau, alors... 3-4 tours au vélodrome.
Mais
de
dites
50...
ça en dehors des infos, là on est dans un train, là.
L'Euro 2016 de foot, qui a coûté officiellement moins de 200 millions d'euros d'argent public à la France, aurait rapporté 1,22 milliard au pays. Puis la Coupe de la Ligue ce soir, les quarts de finale, c'est le début, les deux premiers matchs. Sochaux attend Monaco et Nantes attend l'équipe de Nancy. Voilà.
Merci beaucoup Thierry Paret. François, à tout à l'heure avec plaisir. Un tout petit conseil que je vous demande. Je voudrais arriver à dire aux auditeurs, à leur recommander mon film Ouvert la nuit qui sort demain, ouais. Parce que je trouve que j'en suis fier. Mais sans, vous voyez, avoir la vulgarité
alors,
du type
pas difficile.
Qui profite de l'antenne
ouais,
pour faire de la publicité.
Je comprends bien.
Vous voyez mon problème éthique
alors,
après moi.
La solution, c'est la mauvaise foi. C'est-à-dire que vous dites beaucoup de bien du film, Ouvert la nuit, ouais, machin, ouais. Très bon acteur, bon film, enlevé, tonique, enfin ouais. Vous dites tous les compliments que vous voulez, ouais. Et à un moment donné, moi je vous dis, mais c'est votre film Edouard, c'est vous qui l'avez fait, ouais. Et là vous dites, ah oui, pardon, ouais, ça me, j'y étais pas.
Merci, je vais faire un peu comme ça, merci François. On est avec Jack souvent dans la rue. Jack, où en êtes-vous oui. de vos rencontres du matin?
Je suis passé rue Montorgueil, là je suis rue Ticton, et puis je suis avec Nicolas qui va prendre son petit déjeuner. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Vous avez...
Oui, je vais prendre mon petit déj là ce matin.
Dans quel coin?
Bon là je vais du côté de la place des Victoires.
On va partir sur quoi Nicolas en petit déjeuner? On est plutôt café, plutôt thé, plutôt chocolat, boisson fraîche?
Plutôt café, petit déjeuner bio d'ailleurs. Tiens,
oui, voilà. Bien sûr.
Avec des œufs bio, tant qu'à faire.
C'est important. Donc,
c'est ce que je conseille à tout le monde, surtout les œufs.
Vous avez raison, des œufs bio qui sont certainement pondus par une poule bio, qui a été certainement, engrossée par un coq bio dans une ferme bio avec un fermier bio.
Ouais, tout à fait.
Donc là, on est...
Je préfère que la même chose en non bio, quoi.
Oui, ben bah on est plus droit dans nos bottes.
Tant qu'à faire.
Et on est sur
j'assume
un café.
Le côté bobo. Hein,
c'est pas non, mais il n'y a pas de problème. Bio. Il n'y a aucun problème. On a beaucoup dit de mal, mais au moins vous êtes proche de la nature, des animaux qui se nourrissent bien aussi. Dites-moi, cher Nicolas, vous avez dit café, mais café long, café serré, café à l'américaine, café sucré. Vous voyez, le débat, il est. Soyons précis, les gens veulent de l'info.
Ah ouais, en plus moi je suis complètement paumé entre les macchiato, machin et tout là. Latte, grande qui sont petits, enfin les grandes qui sont grands, enfin bon. Non, moi café crème tout simplement.
Nicolas, je sens que vous êtes juste avant le café. Vous avez cette voix hésitante voilà. De l'homme qui n'a pas encore eu son café et pour qui exactement. La ville est encore hostile, vous êtes encore dans la peur, dans l'incertitude.
Oui, faut que j'y aille là. Je vais aller le prendre.
Très bien, peut-être un message d'espoir de François Rollin pour Nicolas.
Alors oui, lui dire que à partir de la semaine prochaine, je ferai gagner chaque mardi matin un œuf de mes poules. Hein. J'ai trois poules qui s'appellent, ouais. Je vous le rappelle, Le Mercier, Forestier et Robin, et qui pondent donc un œuf chaque jour. Ils sont parfaitement bio puisque c'est moi qui les nourris avec exactement je sais quoi, c'est-à-dire des bons trucs. Et donc à partir de mardi prochain, je viendrai ici avec un œuf qui sera offert à un auditeur méritant.
Ce qui est bien, c'est qu'on a eu Nicolas et... Au lieu de le faire parler, on le bloque et on lui parle. Ça s'appelle. C'est une émission qui est à l'écoute.
Il n'a pas son premier café encore. Non, je ne l'ai pas eu. Mais ça m'intéresse et j'aime bien ce soir-là. Voilà.
Merci Nicolas. Merci de vous.
Au revoir.
Une très bonne journée.
Également.
Si tout à l'heure vous voulez écouter, vous voulez jouer avec François Rollin pour son quiz Innoventura, c'est ça François?
Le grand quiz.
Le grand quiz.
Non mais c'est pas grave, mais bon, c'est pas la même dimension quand même, hein, le grand quiz Innoventura.
Vous appelez au 01 43 07 58 85 pour jouer avec François Rollin, le grand quiz Innoventura, 01 43 07 58 85, Tito Rakatakatak. Ça c'est fait.
7h, 9h, plus près de toi.
C'est très beau quand, après sa dernière météo, sur TF1, Catherine Laborde a dit au revoir en disant « Vous m'oublierez, moi non ».
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non ?
Réveillons un monument national.
Comédienne, écrivain, elle a été pour nous tous celle qui annonçait la pluie, le beau temps, les orages passés ou à venir. Catherine Laborde, le matin, est une femme comme les autres. Bonjour Catherine.
Bonjour Edouard. Oh ben non, j'ai pas une femme comme les autres. Il y a pas beaucoup de femmes qui ont droit à ces quelques lignes dépend de vous.
Oh ben c'est très gentil, mais vous avez de toute façon être une femme comme les autres, ça veut dire évidemment différente. Comme les autres, on est différent. C'est dans ce sens-là que je l'entendais.
Ah oui. C'est le matin, vous savez.
Ça devient tordu. Catherine, je vous saisis là. Il est 8h13. Vous êtes encore dans la pénombre. Vous affrontez la lumière électrique ou pas ?
Non. C'est l'avantage de ne pas. De ne pas aller travailler, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder le réveil, le truc là, comment ça s'appelle, le smartphone. C'est très agréable, oui.
Donc 28 ans à nous dire le temps qu'il fera. Oui. Vous vous leviez à quelle heure ?
Il y a eu plusieurs périodes. La première période a été extrêmement difficile parce qu'il fallait que j'y sois à 4h du matin.
Ah oui.
Oh, mais vous, évidemment, pour vous, 4h du matin, c'est comme midi pour les autres. Mais j'avais des enfants en bas âge dont je m'occupais quasiment seule. Et donc, je faisais des allers-retours entre la télé et la maison. C'était un peu compliqué. Oui.
Donc là, vous avez encore cette horloge interne qui vous réveille vers 4h et qui vous dit non, c'est bon, tu peux te recoucher.
Non, j'ai pas.
Si elle vous tutoie, parce que.
Oui, mais elle est très familière, mais je me rendors sans même la laisser terminer, parce que j'adore dormir. Je suis très, très contente d'être rendue un petit peu au sommeil.
Catherine, vous m'avez dit j'adore dormir, je ne voudrais pas m'inquiéter, parce qu'on peut aimer dormir pour réparer l'activité de la journée, puis il peut y avoir le sommeil fuite, le sommeil refuge, on ne parle pas de celui-là, Catherine.
Oh ben bien sûr que non, docteur. On parle.
Bien sûr.
Enfin.
Bien sûr, vous êtes très active. Je sais que vous allez vous consacrer au théâtre maintenant, chère Catherine.
J'aimerais bien, oui. Il faudrait que je trouve un producteur à Paris et c'est pas si simple. Mais bon.
Je sais que vous avez travaillé déjà avec François Rollin, qui est là à côté de moi, qui vous aime beaucoup.
Ah oui, moi aussi, je l'aime beaucoup.
Catherine, vous avez cette voix extrêmement.
Je viens de boire du petit lait, pardon. Oui. C'est le bruit que vous avez entendu, c'est moi qui ai bu une gorgée de petit lait.
C'est une expression. Catherine, vous nous avez dit comme aveu, vous étiez encore dans la pénombre, dans l'obscurité.
Oui. Hein, oui.
Vous n'êtes pas encore entré en contact avec la fée électricité.
Non,
est-ce que vous êtes sensible personnellement au changement climatique ou est-ce que vous pensez que c'est lorsqu'il pleut qu'il faut être de bonne humeur ?
Il faut être de bonne humeur quand il pleut en ce moment à Paris parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de pollution et que le seul moyen de battre la pollution, c'est quand il pleut. Et puis, sinon, je voulais vous dire autre chose, mais ça m'est complètement sorti de la tête.
C'est bien, mais ça reviendra. Ça revient.
J'ai une question qui nous vient d'un auditeur, Catherine. Est-ce que c'est pas difficile de dormir à côté d'un homme aussi énergique que Thomas, que je salue?
C'est très intime, là.
C'est un peu difficile.
Qu'est-ce qui est intime, Edouard? Thomas est énergique.
Attendez, non, mais l'idée qu'il y ait quelqu'un dans le lit de Catherine Laborde, alors que je lui parle ce matin, ça me gêne énormément.
Ah, qu'il y a eu quelqu'un. Attendez, on n'a pas donné de date. Hein.
Catherine, je voudrais qu'on revienne vraiment sur vous, sur votre intimité, sur cette chambre. Je voudrais qu'on décrive un peu votre lit. Catherine, est-ce que vous avez une tête de lit, par exemple?
Eh bien, non. Et dans cette maison où je suis, tout. Mais oui, ça manque, une tête de lit, c'est formidable. Et à la place d'une tête de lit, on a des livres, mais ils ne sont pas tous de la même hauteur, de la même profondeur. Donc non, ça manque, la tête de lit manque.
Vous avez dit dans cette maison, Catherine, on n'est pas en appartement, on n'est pas en studette, on est en maison.
C'était une expression, c'est comme petit lait, c'est un appartement en fait.
Très bien, appartement, donc la chambre donne sur quoi ? On est directement, on a accès à la salle de bain, la salle d'eau ?
Voilà, c'est ça, il y a une très jolie salle de bain avec une douche à l'italienne bien sûr.
Et alors douche à l'italienne, rappelons peut-être à nos auditeurs un petit peu qui ne seraient peut-être pas au fait.
Oui. Ben, c'est comme si on n'entrait pas sous la douche.
En Italie. Ah non.
Voilà, bref, il n'y a pas de barrière entre l'eau qui tombe de la douche et l'eau qui s'évacue.
Ce refus des barrières, j'ai l'impression que ça vous caractérise, Catherine Laborde, c'est-à-dire tout est dans tout. Quand vous pénétrez dans votre douche, est-ce que l'eau coule déjà ou est-ce que vous devez l'actionner au risque d'avoir un tout petit peu d'eau glacée ou brûlante au début ?
Ah ça, il n'en est pas question. Bien évidemment, je fais couler ma douche un peu trop abondamment avant de
pisser. Oui. Avec votre main qui passe pour vérifier, vous avez confiance dans les
boutons. Dans le thermostat ?
Dans le thermostat, merci François.
Oui. Enfin, je n'ai pas de thermostat, mais j'attends. Je sais à quel moment elle va être suffisamment brûlante pour que je m'y risque, oui.
Catherine, cette fameuse route qui mène du lit à la douche, hein, dont beaucoup d'écrivains ont très bien parlé, c'est pour vous un chemin de croix? C'est une route, c'est une montée vers le Golgotha, c'est de l'espérance? Ça a lieu dans quelle tenue, par exemple?
Ah, c'est drôle que vous disiez ça, je n'y avais jamais pensé, mais maintenant vous le dites, oui, en effet, la comparaison est évidente. Eh bien, je porte une chemise, en plus, avec une ceinture et un collier.
Ah, est-ce que vous essayez de nous faire croire que vous dormez avec vos bijoux, Catherine? Avec... Comme François Rollin?
Voilà, oui, je dors avec un collier. D'ailleurs, c'est en parlant avec François que il m'a suggéré cette idée, et franchement, c'est très très agréable de dormir avec un collier.
Catherine Laborde, continuons à ne pas mentir aux Français. Vous sortez de votre douche, il y a donc vos bijoux, il y a une chemise. Est-ce que vous retirez cette chemise ou est-ce que vous décidez d'aller avec vos vêtements et les laver en même temps que vous vous lavez sous la douche?
Non. J'y réfléchis quelques fois, mais finalement, non.
Est-ce qu'on peut parler de nudité sous la douche, Catherine Laborde, sans vous manquer de respect?
Oui, bien sûr. Oh, comme la bien. Dame.
Oh, on est bien, Catherine. Vous savez, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de faire travailler l'imaginaire. Vous savez, cette femme qui... Vous savez, beaucoup de gens ont fantasmé sur vous. Imaginez, en 28 ans, forcément, oui. Vous leur avez dit « il fera très chaud cet après-midi » ou bien « ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid, couvre-toi ». Forcément, les gens ont fait des... Vous avez reçu des courriers qui vous ont gêné?
Oh oui, ça arrive toujours, oui. Oui. Bon.
Et des gens très amoureux de vous, sans vous connaître, comme ça, avec des longues déclarations?
Oui, mais demandez à François Rollin, c'est lui qui m'écrivait ces lettres-là.
Oui, non, mais c'est pas faux, Edouard, parce que Catherine a joué un spectacle que j'ai écrit pour elle avec Guy Carlier, qui s'appelait Avec le temps, et dans ce spectacle, il y avait les correspondances de ses téléspectateurs, donc effectivement, souvent, ils étaient amoureux ou pensaient l'être.
Pornographique, voilà.
Oui, ou pornographique, éventuellement.
Chère Catherine Laborde, quand on va raccrocher, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous retourner du côté droit au côté gauche? Est-ce que vous allez vous lever, ouvrir les rideaux, les volets?
Eh bien, écoutez, il n'y a plus de chat pour venir me sortir du lit. Alors, je vais attendre d'entendre le bruit de la théière pour me précipiter à la cuisine, rejoindre mon amour.
Ah, c'est joli. Merci, chère Catherine Laborde. Vous avez été merveilleuse pendant que vous officiez à la météo. Et puis, vos départs ont été les plus élégants que j'ai vus depuis longtemps à la télévision.
Bon, c'est très gentil. Merci beaucoup.
À bientôt,
très, très
j'espère.
Oui, j'espère aussi.
Au revoir. Désannoncer un petit peu Armel.
Oui, je peux, car les gens ont envie de savoir. C'était Prince of Ballard à l'instant avec As Long As You've Got. Voilà, Edouard.
Ah, alors, tant que tu l'auras. Tito, tu parles anglais ou pas?
Non, pas du tout.
C'est pas une raison pour pas donner mon avis.
Boulantique, pâtique et stay night et day night.
C'est ça que ça veut dire, exactement.
J'ai pas compris du tout ce qui se passe. C'est pas grave, on ne peut pas tout comprendre, mais ça fait comme une douce musique dans les oreilles. Bonjour Marie-Michel.
Bonjour Edouard Baird.
Il est très mignon, oui. Ce bonjour aussi, parce qu'il y avait toutes les consoles n'étaient pas en place.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie, Misset.
Une fois n'est pas coustume. Bonjour. Oui, on dit coutume, Atman. On ne dit pas costume.
C'est un piège, Atman.
C'était un piège.
Mais je suis puni d'habitude pour ça. Ah, je suis tombé dedans.
La une de l'équipe aujourd'hui, c'est un monde coupé en deux. Alors, je ne sais pas de quoi il parle, je n'ai pas regardé plus loin. Mais je me suis dit que c'était une bonne approche pour la revue de presse d'aujourd'hui. Un monde coupé en deux. Alors, plus vraisemblablement, il est coupé en mille. Mais je cède aux sirènes du simplisme. Ce processus décrit par Éric Orsenna la semaine dernière dans l'hebdomadaire Le 1. Le simplisme, c'est le populisme nouvelle génération. Tout simplifié pour rendre le monde intelligible. Dire des choses simples. À défaut de dire la vérité.
Vous l'aviez cité déjà,
oui,
cet article d'Éric Orsenna. Attention, vous ne m'aurez pas, Marie-Michel.
Je suis un fan, vous savez. D'un côté de ce monde coupé en deux, nous avons donc les illuminés de la Silicon Valley. C'est très, très régulièrement que les articles consacrés à la philosophie de la Silicon Valley et à son désir de transformer le monde en mieux ressemblent au pire cauchemar de George Orwell. Et je ne sais pas si c'est la faute des journalistes qui écrivent ou celle, vraiment, des penseurs de la Silicon Valley. Alors, tout de suite, allons en page 12 ou 13 du Libération, au séminaire de l'Université de la Singularité. C'est installé sur le campus de la NASA. C'est un séminaire pour lequel il faut verser 40 000 $. Dans l'article, le vocabulaire religieux, voire le champ sémantique de la secte revient fréquemment. Ray Kurzweil, qui a créé cette université, qui vise à terme, d'ailleurs, cette université, la vie éternelle. Eh bien, Ray, c'est un gourou, d'après Libération. Peter Diamantis, son partenaire qui intervient dans le séminaire, a des visions. Il sait ce qu'il faut faire. Les gens qui sont à ce séminaire, ils sont non seulement pour sauver le quotidien de quelques milliers de personnes, mais, je cite le discours d'intro, pour changer l'existence de milliards de personnes. Le monde entier est cassé, broken, mais il existe des solutions technologiques à tout, même à la mort. Peter Diamantis, co-créateur de l'université, le dit bien dans le séminaire. Qui a dit que nous devrions mourir à 80 ou 90 ans ? Pour moi, c'est simplement un problème de hardware et de software.
C'est pas le patron de Google qui investit des milliards justement
bien
là-dessus
sûr,
oui.
Bien sûr, ils y mettent tous des sous. Et je trouve que dans l'article, on atteint un petit sommet de référence quasi biblique quand un des participants au séminaire déclare qu'il est si heureux d'être là avec des gens prêts à faire face au grand changement, à un environnement totalement nouveau, au tsunami qui arrive. Lui, dit-il, il ne veut surtout pas être englouti de la Silicon Valley comme Arche de Noé. Donc, d'ailleurs, il y en a un peu plus loin qui ont déjà préparé leur Arche de Noé sous la forme du Nil, par exemple. Dans son dernier numéro sur les ficelles du pouvoir, 21, la revue a fait une plongée sur l'île achetée par Richard Branson, multimilliardaire, proche de la Silicon Valley lui aussi, qui organise des petits week-ends avec piña colada, et des petits bikinis, etc., à plusieurs centaines de milliers d'euros pour, je cite, « définir l'avenir ». Le ticket pour définir l'avenir, il est de plus en plus cher. C'est à l'un de ces week-ends que Anne Grasseger s'est donc rendue. L'atmosphère, une fois de plus, est surréaliste. Donc, entre Bikini, Avenir Mondial, des banques et Pina Colada, où tout semble se retrouver, les marionnettistes de ce monde, ceux que Tom Wolfe appelait du temps où les traders de Wall Street faisaient la loi, les seigneurs du monde. En tout cas, ceux qui semblent l'être et qui sont portés par une croyance très forte à dimension quasi religieuse. D'ailleurs, l'article de Libé se termine sur ces mots. Au sortir de la salle, les participants sont extatiques. Et puis, de l'autre côté de ce spectre, donc de ce monde coupé en deux, il y a les gens au hasard pour qui cet extrait, l'intelligence des ordinateurs va dépasser celle de l'homme et nous permettre de repousser les limites de la mort, de vivre littéralement dans les machines et d'y transférer notre conscience, a moins de sens encore que de l'araméen. Ce sont au hasard les détenus brésiliens des prisons fédérales où plus de 100 meurtres ont eu lieu depuis le 1er janvier et où nous dit La Croix, qui réserve une pleine page, on a 60 fois plus de chances d'attraper le sida qu'en dehors et 40 fois plus de chances d'attraper la mononucléose. Ou ce SDF, encore une fois interviewé par Libération dans le cadre d'une série d'articles sur le vote de la rue. Un SDF qui ne votera pas car il n'a pas de carte d'identité, pas de domicile fixe et donc trop compliqué. Il se dit de gauche, mais le parti d'après lui qui touche le plus les SDF, c'est le FN parce que le discours, on y revient, est plus simple et qui, pour combattre ce qu'il appelle la fachosphère, se bat sur les réseaux sociaux, Twitter donc, ou le lien, du coup, entre ces deux mondes.
Merci Marie Misset, j'ai bien aimé votre description de ces soirées, pina colada, bikini, où on est en train d'organiser l'avenir de l'humanité. Je suis convaincu, moi, que la catastrophe sera sympa. Ce sera l'un des grands pièges de la catastrophe. François Rollin, l'immortalité, c'est quelque chose qui vous attire, qui vous tente ?
Oui, mais j'en fais le sacrifice en ce qui me concerne et oui, je la laisse à mes enfants qui ont bien l'intention d'en faire l'expérience.
Vous ne pensez pas, puisque surtout, comme Woody Allen, que la vie c'est long, surtout vers la fin. L'immortalité risque d'être longue, surtout vers la fin.
Oui, demandez à Woody Allen s'il est toujours de cet avis. Je pense qu'il a un peu mis de l'eau dans son vin, c'est un merloc.
Ah non, je veux pas, je ne veux pas de cette ambiance-là. Hein. Je ne peux pas me le permettre, moi.
Woody.
J'ai des financiers américains. On va écouter, c'est une radio musicale, je vous le rappelle. On va écouter, qu'est-ce qu'on écoute, Armel ?
Alors, c'est un très beau morceau qui s'appelle l'écran
pub. C'est bien.
Ah oui, mais moi aussi, je voulais proposer la publicité.
Oui.
Alors, Nova Mix.
Admet, regarde-moi. Oui, regarde-moi. Qu'est-ce qui se passe ce matin ?
Je craque.
Alors, ce petit jouet accordéon que je voulais offrir à la fille de Léa, ma filleule, tu me le rends. Oui. On met de la pub et ensuite, Thierry Paré vient. Et
non,
tu prends une aspirine et un café, je t'assure.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Ce générique pour dire que j'ai musclé mon articulation pour annoncer les infos de Thierry Paré.
Radio Nova.
Youssouf Fofana, de retour au tribunal, condamné en 2009 à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'enlèvement et l'assassinat du jeune Ilan Halimi, le bourreau du gang des barbares, est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris pour des tentatives d'extorsion et des menaces de mort antérieures à ce crime. L'association Robin des Bois souhaite que le Parti Socialiste donne la possibilité aux 50 000 détenus français de voter les 22 et 29 janvier pour la primaire. Les détenus n'ayant pas perdu leurs droits civiques auraient donc l'opportunité de participer à cette élection. Les places manquent au centre humanitaire pour migrants ou réfugiés ouverts par la mairie de Paris. Résultat, des associations de soutien aux réfugiés ont organisé une opération coup de poing hier soir en dressant en 10 minutes seulement un campement dans le 18e arrondissement de Paris à la halle Pajol. Le Parlement turc a commencé l'examen d'une révision constitutionnelle afin de renforcer les pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan. Cette révision pourrait permettre au président du pays de rester au pouvoir jusqu'en 2029 au moins. Cet officiel, Jared Kushner, a donc été nommé haut conseiller à la Maison Blanche. Il est le gendre de Donald Trump. Cette décision devrait relancer le débat éthique sur ces conflits d'intérêts alors qu'une loi américaine de 67 vise à lutter contre le népotisme présidentiel. Le groupe Eurotunnel a transporté 1,6 million de camions de part et d'autre de la Manche sur ses navettes ferroviaires l'année dernière. C'est une croissance de 11% par rapport à l'année précédente. Un sobre hommage a été rendu devant la supérette cachère de la Porte de Vincennes à Paris où 4 personnes de confession juive ont été assassinées par Hamedi Coulibaly. C'était en janvier 2015. Une vague de froid touche l'Europe, on en sait quelque chose depuis la fin de la semaine dernière avec des températures polaires parfois. Eh bien, cette vague de froid a fait une quarantaine de morts, pour la plupart en Pologne. 600, c'est le nombre de navires qui ont emprunté le canal de Panama élargi depuis son ouverture au mois de juin. Alors c'est très faible et ça s'explique, c'est parce que le passage coûte cher aux bateaux et que les bateaux dont la taille leur permet d'emprunter encore les anciennes écluses ne se gênent pas pour le faire. Résultat, 4 ou 5 navires empruntent le canal élargi chaque jour quand une trentaine emprunte les anciennes écluses. Il faut savoir que ce canal élargi a coûté extrêmement cher. Les amendes pour le non-paiement des parcs-mètres à Paris vont être doublées ou triplées selon les quartiers à partir du 1er janvier 2018. En outre, les contrôles vont être renforcés. C'est ce qu'a annoncé la mairie de Paris qui justifie cette mesure au regard de la fraude massive dans la capitale. 32 équipes participent.
Alors, quelqu'un a son numéro ? Annulé, on annule. On ne le fait pas finalement.
32 équipes participent au mondial de foot, ça va peut-être changer. La FIFA, la Fédération Internationale de Foot, doit se prononcer aujourd'hui pour passer à 40 équipes, voire 48 équipes. L'Euro 2016 de football, qui a coûté officiellement moins de 200 millions d'euros d'argent public à la France, aurait rapporté 1,22 milliard au pays. En moyenne, les visiteurs euros auraient dépensé 154 euros par journée et seraient restés 8 jours en France. Et puis le coup d'envoi aujourd'hui des quarts de finale de la Coupe Davis, de la Ligue de football, Nantes attend Nancy et Sochaux attend Monaco. Demain, le PSG recevra Metz et puis Bordeaux recevra l'équipe de Guingamp.
Atmen, j'étais dans le journal de Thierry Parrain. Hein, oui. Et à un moment, il parlait de la Coupe d'Euro, c'est ce qu'il a dit.
Non, je ne sais pas.
La Coupe Davis.
Oh mon Dieu. C'est grave.
C'est du tennis. On était dans les infos. C'est la signature Nova. C'est
un petit peu la boulette. Là,
Moi, je trouve que c'est grave.
C'est grave.
Je ne voudrais pas qu'il soit viré.
Mettons ça sur le compte de l'âge.
Je ne sais pas. En tout cas, je mets à la place de l'auditeur qui veut son info, qui veut être renseigné, qui a droit à l'information, qui a droit en tant que citoyen. Il s'intéresse au foot. Et qu'est-ce qu'il entend ?
Du tennis.
Du tennis. Il entendait. Alors, moi, j'adore mon Thierry Paré.
Moi aussi. Mais une. Là, c'est le blâme.
Je sais pas,
c'est l'avertissement, moi.
Le petit
carton jaune.
En tout cas, c'est grave. Voilà.
Non, c'est vrai.
Jack dans la rue.
Oui.
Jack.
Alors le Polonais, on le voit encore traîner ou pas ?
Non, on le voit plus en ce moment.
Non, sérieux. Il soulevait donc les sacs de coquilles Saint-Jacques. Combien les sacs de 50 kilos ?
Ah, environ 50 kilos. Oui. Il en prenait un dans chaque main.
Un dans chaque.
Ouais, bah oui.
Blaguez là.
Ah non.
Dans quelle année ?
Oh là ! Les sacs de coquilles, il n'y en a plus depuis enfant. 6-7 ans qu'il n'y a plus de coquilles Saint-Jacques comme ça. C'était les gros sacs en toile. Il n'y a plus de ça. Maintenant, c'est 8 os, 12 kilos.
Mais le Polonais, c'était juste sur les coquilles Saint-Jacques ou sur tous les coquillages, il pouvait prendre des...
Les sacs qu'il y avait sur Paris étaient beaucoup plus lourds que maintenant, les sacs.
Mais c'était 50 et 50, donc il se faisait 100 kilos, hein, non ?
Ah oui, si, sérieux.
Mais on l'appelait le Polonais, je me rappelle plus. Il était né en Pologne ou il a...
On l'appelait le Polonais, maintenant je vais pas demander son identité exactement.
Oui.
Je suis avec Cyril et Christian et ils sont en train de livrer du poisson.
Ouais.
Et Cyril, il m'a présenté Christian, il m'a dit que c'est le Wikipédia des Halles. C'est ça, Cyril ?
Ah, Christian, il connaît tous les Halles, lui. Il connaît toute c'est un archéologue des Halles, lui. Il connaît toute la ville.
Il était là depuis 67.
67, il était là, ouais. Et donc moi, maintenant, on est en 2017 et moi, je l'achète mon poisson.
Et Christian et Cyril, là, donc, on est en train de livrer du poisson où, là? On est où?
Enfin, non, en fin de compte, nous, on est rue Montorgueil, là. Donc moi, je suis le chef de cuisine au Compas.
Ouais.
Je m'appelle le Compas. Et donc, il y a la petite poissonnerie à côté qui s'appelle Soguiza. Et donc, Christian va sur Rungis toutes les nuits chercher le poisson frais. Et tous les matins, je vais me servir chez lui.
Et Christian, c'est le mec qui est toujours devant sa poissonnerie qui continue à haranguer les gens de la rue Montorgueil.
Exactement. Si, il y est de temps en temps.
Allez, dites-lui d'être sympa, de nous montrer comment il vend son poisson un peu à la criée, la rue Montorgueil.
Non, je ne vends pas, je livre simplement.
Ah, pardon.
Je ramène la marchandise de Rungis et je la livre à la boutique et après je m'en vais.
Et ce Polonais qui était costaud comme tout, il a disparu alors?
Bah oui, moi j'ai 67 ans, lui il doit avoir 80 maintenant.
Ce qui était génial, c'était qu'on était le restaurant Le Compas, c'était une ancienne écurie. Avant, on était en plein espace vécu à Paris.
Ah, exactement. J'ai connu le Compas.
Le Compas, c'était vraiment une écurie. Et donc, maintenant, c'est devenu un restaurant, quoi.
Comment elle s'appelait, la dame du Compas, là, qui a vendu il y a deux ans?
Et ses filles, oui.
Ah, je ne peux pas vous dire. Moi, je connais les nouveaux propriétaires, monsieur et madame Ricard. Mais après, monsieur et madame Ricard.
Bah oui, les Ricard, forcément, ils peuvent acheter des. Mais dites-moi, il y a quoi dans le camion, là, ce matin? Vous livrez quoi? Il y a quoi?
Bah, saumon, qu'est-ce qu'il y avait? Roger Barbet, enfin tout un assortiment.
Van Gogh aussi.
Ah, il y a le patron qui vient chercher les factures.
Voilà, il vient de prendre la facture.
Il n'a pas l'air commode, lui.
Si, il est très gentil.
Comment ça se passe, la facture? Elle est bien accueillie, la facture, ce matin? Il n'y a pas de...
Ah, très cher. Ah, oui. Poisson très cher, ce matin.
Vous avez poussé un petit peu le bouchon, là. Moi, je ne voudrais pas assister à ce qui va se passer, maintenant.
Ah bon, ça,
va être, ça va être tendu, non? Vous avez pas... Le poisson est cher parce qu'il était cher... Il arrive de Rungis, là? Il arrive d'où?
Il arrive de Rungis, il est très cher, hein, sur Rungis.
Ah oui. Allez lui expliquer ça au patron, que c'est pas vous, que c'est Rungis. Et Rungis va dire, c'est pas moi, c'est le marailleur va dire, c'est pas moi, c'est le pêcheur. Et, le pêcheur va dire, c'est pas moi, c'est la mer. C'est la mer qui est chère ce matin.
Et puis toutes les taxes qu'il y a sur Rungis.
Ah voilà. Et à force, il y a trop d'intermédiaires. Allez à la pêche directement, cher
Moussa. C'est vrai. Vous savez que pour rentrer sur Rungis, il faut qu'on paye.
Eh oui, je sais. Ouais. On y est allé, c'est quand même bien l'ambiance à Rungis.
Oui, enfin, c'était mieux avant.
Ah, tout.
Ce qui est très positif, c'est que... Mieux
François, pas cette phrase-là, la fameuse phrase.
Ce qui est très positif,
François Rollin,
c'est que Rungis s'est ouvert la nuit.
Ah,
oui. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Edouard?
François, merci pour ça. Merci, Christian, Cyril, merci.
Merci à vous.
Merci à tous.
Allez au boulot, les gars. Et venez au Compas pour manger. Hein.
D'accord.
Allez au boulot.
Allez-y.
On y va.
On y allait au Compas, nous.
Plus près de toi.
9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Oui, ben merci Pat. Soizic Bouju, bonjour.
Bonjour Edouard.
Soizic, vous êtes directrice de l'innovation éditoriale du groupe de presse Centre France. C'est un grand groupe de presse régional, très important. Il y a 8 quotidiens, dont la fameuse Montagne à Clermont-Ferrand. La Montagne, ce journal légendaire, n'est-ce pas? Il y avait Vialat qui écrivait là. Et vous avez lancé une idée très originale de proximité. C'est une camionnette qui part sur les routes à la rencontre pour aller discuter avec vos lecteurs.
Absolument. Dans cette camionnette, on a aménagé... qu'on a aménagé un petit peu quand même. Il y a quelques tables, du café chaud, et puis surtout deux journalistes, deux jeunes journalistes du groupe qui ont souhaité évidemment participer à cette aventure-là. L'idée, c'était à la fois de dire que sur l'ensemble des 8 quotidiens que nous couvrons, de la ceinture entre guillemets sud-parisienne, Orléans, Chartres, Auxerre, Nevers et Bourges, jusqu'au Puy-en-Velay, en passant en effet par Limoges et Clermont-Ferrand, il y avait des territoires qu'on connaissait très bien et des titres de presse quotidienne auxquels les gens sont très attachés. Donc l'idée pour ces deux journalistes, c'était d'aller à la rencontre sur le terrain au quotidien de l'ensemble de ces lecteurs pour les faire à la fois s'exprimer et dire ce qu'ils ont à dire autour de cette campagne présidentielle.
Alors c'est beau comme du Raymond Depardon, la petite camionnette arrive en ville, et Elsa et Julien sont là, est-ce qu'ils dorment dans la camionnette?
Tout à fait, sincèrement, normalement, on leur a prévu quand même du couchage, ce qu'on appelle un backup. Donc normalement, ils ne dorment pas dans la camionnette. Toutefois, ils sont autorisés à faire quelques siestes si parfois ils sont un peu fatigués.
Très bien. Thomas?
Oui, Soizic Bouju, est-ce que cette opération, c'est aussi une manière de resserrer les liens avec ses lecteurs? Parce que finalement, la question de la proximité, c'est quelque chose qui est vécu au jour le jour par des journaux de presse quotidienne régionale. Est-ce que là, il y a quelque chose, un petit plus?
Alors, évidemment, au quotidien, on est présent sur l'ensemble des territoires. L'idée de cette formule-là et cette opération qui s'appelle Mon Journal en campagne, c'était effectivement de réserver un moment vraiment à l'écoute et dédié aux préoccupations de nos lecteurs et des gens des territoires qui ont besoin de s'exprimer ou qui souhaitent s'exprimer sur des questions de la vie quotidienne. On va parler d'école, on va parler de santé, on va parler de c'est quoi être de gauche aujourd'hui en France. Donc on avait envie évidemment de les entendre, de passer un moment autour d'une table et d'un moment convivial et dédié à ça, de les entendre un petit peu différemment peut-être du travail qu'on fait au quotidien dans nos journaux. La deuxième raison qui nous a fait avoir envie de déployer ce journal en campagne, c'est que c'était une manière aussi de dire ne subissons pas trop, nous journalistes et médias, ne subissons pas trop le rythme imposé évidemment et de plus en plus accéléré imposé par les candidats et les partis ou les candidats hors partis. Mais regardons une France différente qui a envie de s'exprimer avec un autre rythme que celui de la campagne.
Soizic Bouju, l'ombre du 21 avril 2002
oh, ah oui, moi, je, la fait, là, je vous la joue sûr. Pendant ce temps-là. Oh.
J'aime le son de l'ombre du 21 avril. Oui, bien sûr, du 21 avril, évidemment plus récemment, tout ce qu'on évoque dans les rédactions, y compris à Nova, de Trump, évidemment, du Brexit. On n'a pas envie de se retrouver potentiellement, en tout cas une nouvelle fois, en mai prochain, en disant « bon sang, on aurait dû voir tout ça ». Alors, je ne sais pas si on aura évidemment l'acuité suffisante et la présence suffisante auprès de nos lecteurs pour être capable de porter cette voie-là et ce risque-là. Mais en tout cas, on avait envie de se dire « on se donne les moyens d'aller sur le terrain pour entendre les gens et peut-être, évidemment, pouvoir mesurer des phénomènes qu'on ne voit pas dans l'univers uniquement médiatique ».
Alors, si vous habitez là, si vous êtes, on sait où elle se balade, on va sur votre site et on trouve la camionnette.
Ah oui, on trouve la camionnette. On est évidemment sur les réseaux sociaux, sur l'ensemble des sites du groupe.
Il faut taper quoi ?
Bien sûr, par la montagne ou la République du Centre. Vous tapez Mon Journal en campagne.
D'accord, ma Soizic.
Vous atterrissez sur la carte de France.
Soizic Bouju, vous êtes où ce matin là ?
Je suis à Orléans, au siège de la République du Centre.
Sympa ce matin l'ambiance.
Super ambiance. Voilà.
Tout le monde est là.
Tout le monde salue et il fait tout le monde.
Voilà. Tout le postier là, tout le crew est là.
Il fait beau à Orléans.
Vous êtes avec votre crew. Vous êtes habillé comment ce matin, Soizic?
Vous voulez vraiment les détails?
Ah oui. Ah, moi, je n'aime que les détails dans la vie, sinon on s'ennuie.
Donc c'est plutôt sombre, sérieux, noir.
Oui, mais je sens qu'il y a des petits secrets. On vous embrasse très fort, Soizic Bouju.
Moi aussi.
Salut. On retrouve tout de suite le grand jeu de François Rollin. À la demande générale, François Rollin fait jouer la France. Dans la grande tradition de la radio joueuse de Francis Blanche à Coluche, en passant par Pierre Mesmer et Pierre Mendès France, voici François Rollin. Bonjour François.
Oui, bonjour Edouard. Donc ce matin, c'est le grand quiz Lino Ventura et nous allons tout de suite...
Absolument.
Avoir un auditeur ou une auditrice en ligne.
Il y a eu beaucoup, je ne vous cache pas François, qu'il y a eu beaucoup d'appels. Il a fallu sélectionner précisément. C'est
très
une
bien.
Auditrice que nous avons choisie, que nous avons retenue. Bonjour.
Bonjour, comment vous appelez-vous?
C'est Constant, je crois.
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Comment
alors,
François
si, tout de suite la familiarité, quoi.
Non,
tout
non,
de suite la proximité.
Constance, bonjour.
Alors, Constance, c'est un quiz.
François, peut-être renseignez-vous sur Constance.
Oui, Constance, comment êtes-vous habillée? En noir,
non,
très bien.
Ouais. Où habitez-vous, Constance?
À Orléans. Ouais, très bien.
François, arrêtez, sinon j'aurais plus d'appel.
Bon, d'accord.
Constance, vous appelez d'où?
J'appelle de Perpignan.
Perpignan.
Ah, oui.
Très bien. Donc, c'est loin. C'est peut-être que la communication est plus chère que si vous appeliez de la région parisienne. Je ne connais pas bien. Alors, Constance, tout de suite, on va jouer avec François Rollin.
Alors, chaque bonne réponse, Constance, vaut 124 points. Voici la première question de ce grand quiz Lino Ventura. Qui jouait le rôle de Fernand Naudin dans Les Tontons Flingueurs de Georges Lautner?
Il me semble que c'était peut-être Lino Ventura.
Très bien, voici
très bien.
124 points, bien gagné. Deuxième question. En 1958, qui jouait le commissaire Chérier dans Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle?
C'est le quiz Lino Ventura.
Attention.
Est-ce que c'était aussi Nino Ventura?
Voilà, voilà, mais le mot aussi n'est pas nécessaire. Dans la troisième question, attention,
ah,
il n'y a,
pardon.
Il est odieux. Vous ferez attention, Constance, il n'y a pas de piège dans la question qui vient.
D'accord.
Qui jouait le brigadier Théo Dumas dans Un taxi pour Tobrouk de Denis de la Patellière, c'est... Clément Thibert dans Le silencieux de Claude Pinoteau, Lino Massaro dans L'aventure, c'est l'aventure de Claude Lelouch, Sébastien Grenier dans L'espion, lève-toi d'Yves Boisset,
d'accord.
Simon dans La bonne année de Claude Lelouch et Monsieur Milan dans L'emmerdeur d'Edouard Molinaro.
Dans le cadre du quiz Lino Ventura, oui, pour aider un petit peu, pour aider Constance.
Grand quiz.
Pour aider Constance.
Il n'y a pas de piège, attention.
Il n'y a pas de piège.
Faites très attention.
Je vous donne des indices. C'est le quiz Lino Ventura.
D'accord. Alors, je ne me souviens plus de toute la question. Est-ce que vous pouvez en répéter un peu parce que j'ai
c'est
pas
le quiz Lino Ventura. Donc, il s'agit de...
C'est facile.
D'accord.
Ouais.
Est-ce que
il me faut votre réponse maintenant, Constance.
Il faut tout de suite. Bon, alors attendez.
Non, je n'attends
ça
plus.
Ça commence par Lino.
Le maître tourne.
On peut aider un petit peu, c'est difficile. Ça commence par Lino.
J'en peux plus.
Ouais. C'est Lino Ventura.
J'en peux plus.
C'est ça.
Merci.
Bravo.
J'en peux plus. Elle a gagné. Constance, merci, on vous fait un tour bisou. On va compter vos points et puis vous les notez sur un grand cahier.
D'accord.
Et vous nous envoyez cette tête à Radio Nova 127 avenue Ledru Rollin et en échange de tous les points, on vous donnera d'autres points.
Et merci à Lino Ventura.
Merci.
J'ai l'impression de m'être fait avoir un moment dans le jeu, cette histoire.
C'était pas facile. Hein.
C'est pas facile.
C'était pas facile.
C'est pas très difficile non plus.
Merci, voilà. François. On va être à tir tendu sur les 6 dernières minutes de l'émission. D'abord de la publicité à la demande de Tito. Et puis ensuite, Jean-Claude de Calonne nous parlera de passeurs d'art et beaucoup d'autres choses. À tout de suite.
7h-9h, plus près de toi.
Hein ? Elles étaient bizarres, là. Deux
bagnoles.
Deux
voitures, ouais.
Renault, le mec de Peugeot, il n'aimait pas la musique de la radio.
De la radio, et puis il nous force à avoir son application.
Et puis, alors, je tiens à dire que les voitures sont scandaleusement trop chères et les cacahuètes, scandaleusement pas assez chères. Comment voulez-vous faire un commerce équitable avec des cacahuètes à 4 euros le kilo? C'est lamentable.
Merci, François Rollin. On retrouve tout de suite Jean-Claude de Calonne. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Jean-Claude, avec Passeurs d'art, vous proposez d'initier des enfants dans des collèges prioritaires à la musique classique en leur apprenant à jouer tous les instruments qui composent un orchestre symphonique.
Oui, exactement.
Alors, comment ça se passe, cher Jean-Claude, alors?
Écoutez, on est parti d'un constat, c'est que ceux qui avaient le plus besoin d'art sont ceux qui en sont le plus éloignés. Donc il fallait absolument aller dans ces lieux où la musique n'est pas présente pour la proposer, pour offrir des instruments et puis... monter un dispositif qui puisse être suffisamment prenant pour les jeunes et pour les enfants. En fait, on commence en CM2 et on va sur toutes les années du collège. On a un très beau projet qui fonctionne à Garges-lès-Gonesse depuis un peu plus de 2 ans. Et aujourd'hui, il y a presque 100 enfants qui profitent de ce dispositif dans un beau système d'orchestre symphonique.
Alors, vous avez créé un orchestre donc dans ce lycée de Garges-lès-Gonesse. Vous avez donc c'est comme des intervenants qui arrivent, qui disent aux enfants en CM2, voilà, je vous propose ce programme général. Chacun, je vous propose un instrument. Les enfants choisissent leur instrument. Comment c'est organisé?
Alors, ils choisissent leur instrument par catégorie. C'est-à-dire que la première année, on leur a fait choisir parmi la famille des cuivres. La deuxième année, parmi la famille des bois. Et cette troisième année, depuis le mois de septembre, un nouveau CM2 est entré dans la danse, si je peux dire. Et eux ont choisi parmi les cordes.
Alors Jean-Claude de Calogne, il y a un très beau film de Fellini qui s'appelle Prova d'Orchestra, où on voit tous les musiciens de l'orchestre symphonique qui disent c'est le mien le plus beau, il y en a qui disent c'est la flûte, c'est le violon qui a raison, mais j'imagine que c'est difficile de convaincre un enfant de jouer du triangle ou d'instruments qui ne flattent pas
l'ego. Non, il n'y a pas de problème. En ce qui concerne les percussions, c'est pas un problème non plus, puisque tous les enfants et tous les jeunes du dispositif apprennent aussi les percussions en plus de leur instrument.
Qu'est-ce qu'on constate alors quand un enfant qui n'est pas très concentré à l'école, qui a du mal avec les études, apprend un instrument et fait partie d'un orchestre symphonique?
Bah écoutez, on est dans un lieu là où il y avait vraiment beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes scolaires, beaucoup de problèmes de comportement. Et en quelques mois, tous ces problèmes ont été résolus. On est passé parfois d'une moyenne de 5 à 12, et cela en quelques mois. Donc le procédé fonctionne bien. Il faut dire qu'on est sur une certaine intensité quand même, puisque les jeunes font 6 heures de musique par semaine et ils ont le droit, bien sûr, d'emporter les instruments chez eux.
Et c'est une expérience qu'on peut faire dans d'autres collèges que vous allez étendre ?
Écoutez, j'aimerais bien. C'est pas spécialement dans les collèges ou dans les établissements scolaires qu'on va le faire. Notre vocation, c'est de créer des maisons passeurs d'art dans lesquelles les enfants viennent juste après l'école et on les garde tous les jours jusqu'à ce que leurs parents soient rentrés du travail. Et à partir de là, on va monter des vrais projets qui vont être assez extraordinaires puisque dans des projets comme ceux-là, les enfants vont faire jusqu'à 15 heures de musique par semaine et je peux vous promettre que ça change leur vie. On a eu on bénéficie d'études maintenant faites par des psychologues et par des spécialistes de l'éducation nationale qui disent à quel point ce projet est hallucinant de réalisme et d'efficacité.
Merci, cher Jean-Claude de Calonne. Allons voir, c'est formidable ce que vous faites sur passeurdart.org.
Voilà, exactement.
Merci, cher ami. Très bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Non, si je vous dis commissaire Gallien dans Garde à vue, c'est
Nino Ventura.
Voilà, c'est tout.
Merci, Ahmed. Merci, c'est fini. On termine sur un mot d'Ahmed Khelif. Merci à Tito. Le générique défile en bas de l'émission, accompagné par Tito. Merci, François Rollin.
Merci
encore
à vous,
quelques
Edouard.
Jours pour vous voir à l'Européen, les trois dernières.
Les toutes dernières.
Ne loupez pas les 30 Glorieuses. Ça commence juste après Thierry Paret. Lendemain d'anniversaire, le journal de Thierry Paret. Salut, à demain.
À demain.
Edouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.